Bonjour à tous nos auditeurs de Radio Aligre. Eh bien, c'est Philosophie au présent.
Bonjour à tous. Nous voici de nouveau sur les ondes de Radio Aligre avec Philosophie au présent, Nathalie Perrin et Isabelle Raviolo.
Ouais,
ravie de vous revoir.
Ça faisait longtemps. Hein,
pas de vous réentendre.
De vous proposer de nouveau des émissions plutôt, pour cette année. Ça faisait longtemps. Voilà, il n'y a pas eu d'émission pendant le Covid, sauf des rediffusions. Nous sommes ravis de vous proposer de nouveau pour cette année donc cette émission Philosophie au présent qui, je le rappelle, s'inscrit dans le cadre du Collège international de philosophie. Voilà, nous sommes toutes les deux directrices de programme et ça fait maintenant depuis au moins un an qu'on est sur les ondes de Radio Aligre. Voilà, presque deux, tu me dis. Voilà, bah, super, ça passe vite. Et aujourd'hui, Isabelle, on a décidé de proposer, enfin tu as décidé, puisque les auditeurs le savent, c'est à tour de rôle qu'on propose des thématiques. On est plutôt une émission, on n'est pas dans du philosophico-philosophique. Jusqu'à présent, on a fait beaucoup de relations aux arts et à l'art. Ça a été un peu notre, un petit peu notre toit du côté, beaucoup du côté de la peinture. Et puis, on a fait aussi du côté de la musique, de l'écriture, des écrivains. Donc, on n'est pas du côté du philosophico-philosophique. Et aujourd'hui, on va un peu peut-être passer par la philosophie, mais pas seulement, peut-être par le cinéma, par la littérature, à travers une thématique que tu as proposée qui s'appelle, et qui est, je crois, éclairante un petit peu pour ce qu'on vit aujourd'hui, qui s'appelle « Traverser la peur ». Alors c'est à partir de là qu'on va avoir une espèce de dialogue à bâton rompu, peut-être un peu à partir de ce que nous-mêmes on vit aujourd'hui, « Traverser la peur ». Alors, tu me disais en préambule de la préparation de cette émission, tu disais « Notre présent est habité par la peur », donc c'est vraiment une question, c'est vrai, on en a souvent débattu, toutes les deux. Et puis, je crois que les gens en parlent aussi. On est traversé par un moment de peur. D'où vient-elle exactement ? Alors, c'est la réinterrogation de ce qu'il faut entendre par peur. Peut-être aussi dans ces motifs obscurs et pas forcément dans ce qu'on appelle objectif. Est-ce qu'il y a toujours de l'objectivité à la peur? Et est-ce qu'on sait bien ce que c'est que l'objectivité d'ailleurs? Et est-ce qu'on prend toujours conscience que nous sommes des êtres de peur? Enfin voilà, donc ça sont des questions qui menaient pour toi cette thématique que tu proposais aujourd'hui.
Eh bien, en préambule, je t'avais envoyé effectivement ces quelques pistes de réflexion, Nathalie. Et c'est vrai que quand on s'interroge sur la peur, on est d'emblée, en tant que philosophe, interrogé sur des distinctions à faire avec la crainte et avec l'angoisse, au fond. Parce que dire la peur, ce n'est pas dire la crainte, ce n'est pas dire l'angoisse. Il y a, dans ces mots qu'on a tendance à assimiler dans le vocabulaire courant, des distinctions à opérer, en fait.
Et est-ce qu'on peut les faire maintenant, ces distinctions? Alors moi, j'ai vu pour la peur, on serait dans un phénomène plutôt psychologique qui nous affecte, et qui nous marque, et qui est en fait plutôt accompagné d'une prise de conscience, la peur, d'un danger réel ou imaginé. On serait davantage alors du côté d'une prise de conscience, au contraire peut-être de l'angoisse qui serait davantage du côté d'une forme de malaise, de sentiment de l'imminence d'un danger, mais qui serait peut-être moins conscient. Est-ce que ça pourrait marcher comme...
De façon très claire, pour élargir le champ des questionnements et puis pour inviter nos lecteurs à s'engager dans cette réflexion sur la peur et la manière de la traverser, je dirais que si la peur d'emblée pour un philosophe a un objet, l'angoisse n'en a pas et la crainte se rapporte davantage à l'épreuve de Dieu. Donc au fond, cette distinction conceptuel de prime abord nous permet de analyser cette dimension de la peur à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est ça qui m'intéressait au fond aujourd'hui, parce que je voulais pas parler de la peur en général, à moins de faire une émission radio courte ou séminaire. C'est pas intéressant pour les auditeurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui on peut dire qu'on traverse une crise sanitaire, certes, mais cette crise qui engendre d'autres crises sous-jacentes, mais tout aussi prégnantes, la crise économique, la crise sociale, mais aussi plus fondamentalement la crise spirituelle, eh bien c'est une crise qui nous confronte à la peur. la peur qui nous constitue, tu l'as dit, mais que nous alimentons aussi par oui. autant de peurs diffuses qui sont la peur, certes, d'un virus qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas, bien, mais surtout la peur de l'autre. Et ça, c'est flagrant. Je veux dire, depuis des mois qu'on voit les gens craignant la présence, la proximité de cet autre susceptible d'être malade et qu'on ne doit pas approcher, qui doit avancer masqué. Vous dire, la peur d'autrui, elle n'est pas nouvelle sous le soleil, tu me diras. Mais non. En même temps, cette peur d'autrui, on a l'impression qu'elle s'est accrue parallèlement à un phénomène d'isolement des gens devant leur écran et les diktats de l'informatique, du numérique. Au fond, cette peur d'autrui, je crois qu'elle est toujours sur fond d'une peur de soi. Peur de soi qui, finalement, se fonde sur l'incapacité de se tenir dans des événements qui nous bouleversent.
Oui, est-ce que... Alors moi, je fais une petite question un petit peu provocatrice, mais est-ce que, finalement, c'est pas le soi, ou alors le soi, c'est peut-être pas très bien, peut-être le moi, est-ce que c'est pas le moi qui nous... qui instaure cette peur en nous? Est-ce que, finalement, cette espèce de définition de nous-mêmes, nous serions des sujets de type conscience, où, voilà, on serait, finalement, il y aurait quelque chose comme une unité en nous, ce qui fait notre unité, ce serait la conscience. Nous sommes donc des sujets à part entière et définis par une espèce d'unité. Est-ce que c'est pas finalement cette unité qui crée la peur? Par exemple, la question de l'un, en tout cas en philosophie, ne serait-ce qu'avec des gens comme la Boétie, qui montre bien que parce que nous avons été définis comme un, parce qu'on se définit comme un, on est d'autant plus apte à recevoir toutes les formes de la monarchie. Je rappelle que Étienne de la Boétie, donc le discours de la servitude volontaire, à un moment donné, il dit, voilà, c'est ce soi-même qui est en nous et qui est prêt à recevoir le monarque. Comme si le soi ou le moi était le monarque en nous-mêmes. Est-ce que c'est pas ça aussi?
Je ne sais pas, parce que ça me semble un peu délicat de dire, l'homme est défini par un soi, l'homme est défini même par un moi. Bien sûr, il y a une différence. Parce que il est, je crois, périlleux d'emblée d'énoncer des dogmes en disant l'homme c'est ça, c'est une unité.
Tout à fait,
mais qu'est-ce
absolument.
Que recouvre l'idée d'unité? Est-ce que c'est pas une projection qu'on fait de l'homme sur l'homme? Il est très difficile de définir ce qu'est l'homme. Est-ce... Je pense que ça échappe à la définition. Je
Tout
pense que
fait.
C'est que des tentatives qu'on a. Et si je reprends ce sentiment de la peur, parce que telle est bien la peur, un sentiment. On peut dire que, justement, la peur est ambiguë. Ambiguë parce que, à la fois, nous la recevons par épreuve de l'extériorité. On a raison d'avoir peur du coronavirus, quoi. On ne sait rien sur lui et c'est très anxiogène. Mais en même temps, on l'alimente soi-même. Et ces peurs s'agrémentent aux autres peurs. Ce n'est pas séparable, en fait.
Absolument, oui, tout à fait.
Et ça, je pense que c'est très intéressant d'en faire la généalogie aujourd'hui de la peur. Parce que les auditeurs n'ont pas besoin de nous pour constater aujourd'hui que la société est devenue anxiogène, que les gens ont peur et que cette peur, elle nous aveugle et elle nous entame profondément. C'est pour ça qu'on a aussi une crise sociale. Et donc, je crois que si on a peur du lendemain, peur de l'autre, peur de soi, ces peurs qui sont très différentes l'une de l'autre, pour autant, sont alimentés par un fond commun. Et alors, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, de débattre avec toi, avec les auditeurs, et de me dire que si nous sommes tétanisés par la peur ou que nous nous fermons sur nos peurs, eh bien, cette servitude volontaire, puisque tu parlais de l'essai sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, par quoi est-ce qu'elle est mue, au fond? Qu'est-ce que c'est qui fait que nous nous laissons envahir par nos peurs et que nous ne restons pas, finalement, avec nos peurs dans une espérance? Et ça, c'est justement, si tu veux, quelque chose qui m'interroge aujourd'hui, même en tant que citoyenne qui va voter, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est que ces politiques qu'on nous sert depuis 20 ans et qui prônent des tout sécuritaires? En fait, la sécurité, c'est toujours dans un programme politique de président, de maire, que ce soit au municipal, au législatif ou au présidentiel. On a toujours cette rengaine de la sécurité. Pourquoi ? Parce que l'autre est potentiellement agressif, violent. Potentiellement, l'autre va nous faire du mal. Mais l'autre, qui est-ce ? C'est nous aussi. C'est l'autre, autrui. C'est l'autre, l'État. C'est l'autre, le voisin de palier ou le voisin de frontière. Donc on est constamment, finalement, pris dans un phénomène de résurgence des peurs qui sont autant de manières de les multiplier, de les accroître par les médias.
Oui, il y a une, autrement dit, il y a une production de la peur, mais qui s'assoit aussi, je crois, sur une idéologie de l'homme. Je crois qu'on a d'autant plus formaté l'homme avec une définition qui est classique en philosophie, cette définition d'un sujet centré sur lui-même, qu'on a effectivement, qu'on peut positiver cette définition, et elle a sa raison d'être dans l'histoire de la philosophie. Mais je crois aussi qu'en essayant une définition ou une nature humaine qui a eu son histoire, et je crois qu'on est encore là-dedans, il y a donc une facilité de notre part à accueillir ces peurs parce qu'on a produit finalement une certaine image de l'être humain. On a définit l'homme comme étant quelqu'un qui a plutôt à se centrer sur lui-même, à se recentrer sur lui-même. Alors, ce n'est pas le recentrement de celui, justement, qui prend sa psychologie à deux mains ou son esprit à deux mains et qui a le courage d'essayer de penser sa vie, enfin, d'essayer de la repenser en dehors de toutes ces peurs qui sont fabriquées. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ça, on est d'autant plus apte à accueillir les peurs que finalement, certes, on les fabrique, mais qu'on nous a aussi un peu fabriqué de manière à pouvoir les recevoir.
Moi, je crois que c'est intéressant de reprendre un dialogue, un écrit de Georges Bernanos, pour éclairer ce que tu viens de dire. C'est un écrit qu'il a rédigé à la fin de sa vie, qu'on a retrouvé dans ses malles après sa mort, « Dialogue des Carmélites ». Il y a un très beau dialogue dans le tableau 2 entre Sœur Constance et Sœur Blanche. Et Sœur Constance dit à Sœur Blanche, on n'a pas peur, on s'imagine avoir peur. La peur est une fantasmagorie du démon. Voilà, bon, ça c'est la réplique de Sœur Constance quand elle s'adresse à Sœur Blanche dans ce tableau 2, scène 4. Et au fond, quand on reprend ces mots du personnage de Bernanos dans Dialogue des Carmélites, on se dit, voilà, qu'est-ce que c'est la peur? Sur quoi est-elle fondée? C'est comme lorsque tu parlais du moi, du moi, du soi, c'est chargé conceptuellement en philosophie occidentale. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on y met ? Quel est le contenu de sens de ces réalités conceptuelles ? Est-ce que c'est pas que des concepts ? Dans quelle mesure ce que tu dis de l'homme aujourd'hui, normé à travers un prisme social et culturel, cet homme centré sur lui, c'est paradoxalement un homme décentré de lui.
Oui, complètement.
Donc, au fond, on est là toujours en philosophie, c'est ça qui donne à penser aussi sur des assises qui ne sont pas manichéennes. C'est pas ceci plutôt que cela ou ceci contre cela. C'est toujours avec. Au fond, la complexité fait que la peur ne se peut comprendre que dans la complexité d'un phénomène où l'homme est un homme peureux, parce que quand il marche vers l'avenir, il ne sait pas vers quoi il marche, c'est un inconnu, mais en même temps, il trouve en lui des ressources où il puise pour espérer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en reliant Dialogue des Carmélites de Bernanos à la joie de Bernanos, toujours, on a le personnage de Chantal de Clergery qui dit dans le chapitre 3 que quand on éprouve du désespoir, on en a le goût. Mmh. On finit par en avoir le goût. C'est comme une habitude.
Ouais.
Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de relier ces références littéraires de Georges Bernanos, du siècle dernier, à ce que dit Ravesson sur l'habitude. Donc, dans cette catégorie de la peur, on a un entretien de nos peurs. Mais sans pour autant que cette manière d'entretenir nos peurs et de se laisser porter par elles dans une servitude volontaire, puisque tu reparlais de ce mot, de cette expression, ce soit au fond conscient tout ça. C'est quelque chose qui est malgré nous, plus fort que nous, et qui nous emporte, qui nous déporte, et qui finalement nous prive de notre liberté. Or, surmonter ses peurs, traverser les peurs, puisque tel est le titre de l'émission que j'ai donnée aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être pas les gommer, les annihiler ou les zapper, comme on dirait aujourd'hui, mais au contraire, pouvoir les apprivoiser. Mais alors pour ça, ça demande effectivement de regarder en face ses propres peurs.
Et de les affronter, c'est un travail sur soi.
On
en revient aussi à toute la question de la société. Enfin, on ne peut pas éliminer ça, puisque aujourd'hui, tout est fait dans nos sociétés pour qu'on n'ait pas ce temps de la réflexion sur soi.
Tout à fait.
Il faut un courage, il faut une volonté considérable pour avoir peut-être la possibilité de couper tout ce qui vient parasiter ce rapport à soi nécessaire pour questionner effectivement ces peurs, ces angoisses qui ont leur raison d'être. Là, il faudrait, je crois que la peur du chômage, l'économie qui s'effondre et les millions de chômeurs qui vont en découler sont des peurs très concrètes. Et arriver justement à ne pas se laisser tomber, c'est ça le plus difficile, puisqu'il y a quelque chose dans la peur qui est comme, c'est une passion de la faiblesse, c'est ça peut-être le danger, c'est que ça nous affaiblit. Et quand on a peur, quand on ne travaille pas sa peur comme tu le laisses entendre, le grand danger, c'est de tomber, de ne pas arriver à se relever.
Oui.
Et ça, c'est absolument pas souhaité, puisque s'il faut que les choses changent, on a besoin de gens actifs et de gens qui ont envie de faire des choses. Or, la peur, elle a cette chose très particulière, quand on se laisse envahir par elle, c'est de perdre toute volonté de travailler sur soi.
Moi, je pense que la peur, quand elle est travaillée, puisque tu as employé ce mot, Nathalie, elle est la peur d'Achille qui va sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'elle va avec son antonyme, le courage.
Ouais.
Elle n'est pas incompatible
oui,
avec
lui. Oui, absolument, tout à
Au
fait.
Au contraire, je transformerais même l'idée d'une peur tétanisante et liberticide en une peur dont on aurait le courage et qui serait le moteur d'un émergent pour l'avenir. Parce que le courage... je reprendrai l'essai de Cynthia Fleury sur le courage, tout à fait passionnant, aux éditions Folio. Eh bien, c'est pas quelqu'un qui serait héros par nature, mais c'est quelqu'un qui, l'homme courageux, c'est quelqu'un qui aurait affronté ses peurs en face. C'est-à-dire, au fond, qui aurait eu le courage d'avoir peur. Or, quand on a effectivement perdu son travail, qu'on a au travail un stress accru, une pression constante, des diktats numériques et l'isolement de l'individu qui va avec son écran là, omniprésent, eh bien, tout ça contribue à saper les assises de notre humanité, déjà bien entamées, on pourrait le dire, par l'idéologie transhumaniste qui, finalement, alimente aussi notre peur de la mort. On y reviendra dans une deuxième partie d'émission.
Bien sûr.
Eh bien, on est sur des peurs légitimes. Je veux dire... qu'est-ce que c'est que ce numérique accru ? Est-ce que je vais garder mon travail demain ? Est-ce que je ne vais pas être remplacé par un robot, par une machine, par un androïde, par un cyborg ? Y a toutes les dystopies qui ont alimenté les séries, de Black Mirror à Real Humans, ou encore les livres de science-fiction, les BD, qui ne traitent que de ces réalités de demain. Donc, au fond, la technique dont nous avons bu le biberon pendant plus de 100 ans et qui a été la mère nourricière et protectrice d'une nature devenue finalement agressive et sauvage parce qu'on en avait peur, c'est de nouveau ce dont nous avons peur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette technique-là qui, comme dans 2001 ou l'Odyssée de l'espace, va peut-être prendre le pouvoir.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que tu pointes là, tu en as parlé tout à l'heure, c'est vraiment le rapport de la peur et de la temporalité, avec cette espèce d'avenir. Alors, d'avenir on est toujours en train de nous parler d'avenir et finalement, on ne nous aide jamais à bien vivre au présent. Et je crois qu'en fait, plus que jamais, il faut habiter le présent et cesser toute cette futurologie dont on nous gave depuis les années 70.
C'est absolument un peu ça. Voilà,
c'est
la collapse. La collapsologie qui fait que je ne dis pas que il n'y a pas à s'alarmer devant les rapports du GIEC.
Oui.
Je dis simplement que si on cède trop à la peur, et là, la peur devient tétanisante.
Complètement.
C'est-à-dire qu'en fait, elle sclérose toute pensée, toute action, toute espérance, parce qu'on ne peut pas agir sans espérer, dans la mesure où quand on agit, on va vers l'inconnu. Forcément, il y a une zone d'ombre. Et cette zone d'ombre, si on s'y avance, c'est qu'on espère. C'est qu'on est porté par une conviction, une croyance. On n'explique pas, on ne peut pas lire dans l'avenir et donc expliquer de quoi l'avenir sera fait. Donc, cette manière d'avancer dans le clair-obscur, c'est bien l'humaine condition. Et l'humaine condition est toujours prise dans le présent d'un passé et le présent d'un avenir, pour le reprendre Augustin dans le livre 11 des Confessions. Pour le dire autrement, eh bien, habiter son présent, c'est peut-être cela qui blesse l'homme. Hein, Pascal disait que le présent d'ordinaire nous blesse parce que nous n'arrivons pas à nous tenir au présent.
Oui, c'est la chose la plus difficile.
Tout le malheur des hommes tient à une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Qu'est-ce qui fait le divertissement de l'homme? De celui qui perd son fils et qui l'oublie en allant jouer à la roulette, à l'autre qui chasse le lièvre et qui ne voudrait pas du lièvre si on le lui donnait, et au roi sans divertissement qui serait un roi malheureux. C'est des manières de fuir sa condition mortelle, ça.
Absolument.
Et alors, la crise sanitaire, le coronavirus, c'est très intéressant parce que c'est une crise qui nous renvoie à nous-mêmes. C'est une crise de la vie, une crise spirituelle, de l'âme, beaucoup plus qu'une crise économique, sociale et sanitaire. Ça l'est, de fait. Mais au fond, quand on en fait la généalogie de cette crise, c'est l'homme qui est malade. L'homme qui est malade de lui-même. Qui ne se supporte plus, qui ne se supporte plus peureux, qui vaudrait précisément être un héros, c'est-à-dire un surhomme. Or, l'homme ne peut jamais découvrir qui il est en rêvant ce qu'il est dans des projections fantasmées. Et ces idoles que nous promettent la technique à travers un homme cryogénisé qui reviendrait sans maladie et tout, enfin bon, c'est hallucinant ce truc, un homme qui ne mourrait plus, ou un homme immortel aux âges bibliques qui vivrait 450 ans, mais il vit comment le type là? Tout seul, sans personne, même si on trouve des nanotechnologies qui nous permettent de vivre très vieux sans cancer, on finira toujours par se massacrer les uns les autres. Donc, cette question de l'homme, elle est centrale, elle est au cœur de nos préoccupations avec le coronavirus.
Et puis, rappelons aussi cette chose un petit peu sensé, c'est qu'il y a quand même, c'est des questions quand même d'homme occidental pour qui tout va à peu près bien. Il y a quand même la moitié de la planète qui meurt encore de faim. Il y a tout simplement des enfants qui aimeraient atteindre l'âge de 2, 3 ou 4 ans. Donc avant de penser à l'homme cyborg ou à l'homme je ne sais pas trop quoi, on ferait bien essayer de nourrir cette partie de la planète qui a toujours faim ou qui crève des guerres fomentées par les pays occidentaux.
Parce que tu as tout à fait compris que les deux cornes du veau d'or, c'est le fric et le pouvoir. Donc on est toujours avoir peur de rencontrer autrui. Donc cette peur-là nous fait tenir à des précarés imaginaires, au fond, des espèces de survie qui n'en sont pas. Et au lieu d'être présent au présent dans la rencontre d'un visage, on se déporte toujours vers des mondes imaginaires qui sont vains et creux. Et je disais dans Le Monde récemment, Nathalie, que les personnes âgées dans les EHPAD, certes, étaient tellement protégées du coronavirus avec tous ces plastiques, tous ces gels, etc., qu'elles finissaient par des morts que le monde appelait des morts en glissade. C'est-à-dire, au fond, elles se laissaient aller à mourir parce qu'elles étaient isolées.
Parce qu'il n'y a plus de contact.
Voilà. Et donc, du bébé à la personne très âgée du quatrième âge, l'homme reste l'homme au sens où l'humanité, si on ne la nourrit pas...
Par des contacts, par des relations.
Des relations, elle meurt. Et ça, à tout âge. Et c'est une question majeure. Il faut que les gens en aient conscience de ça. Parce que si on les isole, et si on nous isole comme ça, si on nous reconfine, on va au-devant de troubles psychologiques majeurs, quoi.
Donc, alors Isabelle, ce qui est intéressant, donc ce que tu as pointé à l'instant, c'est vraiment tu fais surgir de la peur, non pas cet affect de tristesse dont l'idéal ne serait absolument pas d'en rester là, mais de faire surgir de la peur le courage de la regarder, non pas de l'annihiler. Il s'agit pas d'être dans un tout joyeux, d'être dans un optimisme de mauvaise aloi, mais il s'agit de regarder ses peurs, de les travailler. Alors, comment peut-on les travailler, c'est une autre question, mais en tout cas pour faire ressurgir une espèce de courage, mais un courage, qu'est-ce que ce serait le courage? C'est pas forcément le courage d'aller dans la rue et de faire la révolution, c'est le courage peut-être déjà d'arriver à être bien dans son existence, ce qui n'est pas un donné, être bien dans son existence.
Et je dirais, moi, un peu à rebours de l'esprit du monde, le courage de dépendre d'un autre.
Oui.
Donc le courage de faire confiance.
Oui.
On n'est pas isolé. Notre solitude n'est pas un isolement. Et dépendre d'un autre, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, se dire que toutes ces expressions qui hantent notre vocabulaire et qui en disent long sur l'homme individualisé, nucléisé de nos sociétés, c'est prendre soin de soi, construire sa carrière, ne penser qu'à soi, coucounez-vous, vous le valez bien. Tous ces machins, ça veut dire quoi tout ça? Mais ça veut dire qu'en fait, on est seul, tout seul, avec soi-même, dans le solipsisme d'une conscience,
absolument,
ou l'insularité d'un moi, un moi haïssable qui se fait le centre de tout et le tyran de tous, autrement dit d'un moi détestable. Parce que catalysant ainsi toutes les énergies à lui, il fait crever notre esprit, notre âme. Et cette réalité-là, elle n'est pourtant pas sans nous, au sens où nous-mêmes ne sommes pas que des petits égaux pleins d'appétit et accumulant des biens qui sont autant de biens nous menant à notre perte, au fond.
Oui.
C'est-à-dire à des colmatages ou à des rustines de peur que nous ne voulons pas voir. Parce qu'on est bien protégés dans nos abris. Mais là, les abris s'écroulent. Et c'est pour ça que l'homme est en dérive.
Et autrement dit, travailler sa peur, ce serait, c'est travailler ses perceptions, c'est travailler tout un rapport au monde.
Un rapport aux autres,
effectivement, voilà, quand tu disais cette espèce de solipsisme du moi, cette intériorité, voilà, ce repli sur nous-mêmes qu'on nous demande quand même d'avoir, et de plus en plus dans un certain monde du travail, je crois même dans le travail de manière générale, parce que ça peut aller de l'usine jusqu'au prof, face désormais à son écran,
à
l'élève qui est face à son écran, et au type qui est tout seul dans une usine face à sa machine toute la journée en train de répéter les mêmes gestes. Donc ce mauvais repli sur soi, finalement, c'est des perceptions possibles qui n'adviennent pas.
Oui, c'est des perceptions possibles qui n'adviennent pas, et c'est aussi un rapport à l'autre qui ne s'effectue pas dans sa fécondité.
Oui,
nous sommes appelés à la fécondité du rapport à nous-mêmes comme à autrui. Mais cette fécondité, elle ne se fait pas seule avec soi-même. Et quand on entend Platon dire dans le Théaetète « La pensée est un dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec elle-même », Platon invite dans ce dialogue intérieur et silencieux de l'âme avec nous-mêmes à ensuite aller vers les autres. Socrate n'est pas resté seul avec lui-même. C'est penser dans l'intériorité d'une circulation des idées pour et vers l'altérité d'autrui. Socrate, c'est l'homme de l'agora, Socrate, c'est le maïoticien, Socrate, c'est celui qui va à la rencontre autres. Voilà. Est-ce qu'on pouvait s'imaginer un Socrate qui ne touche pas l'autre, un Socrate masqué? Est-ce qu'on pouvait imaginer des sociétés où le débat n'existait pas, sans que ce soit des sociétés prêtes ou mûres pour le fascisme ou les formes de dictature, quelles qu'elles soient? Donc cette question, au fond, du repli sur soi, de l'insularité dont je parlais, ou du solipsisme de la conscience, elle est au cœur du débat de la peur, parce que la peur devient, au fond, aliénante dès lors qu'elle n'est pas vue en face, affrontée, qu'on ne se confronte pas à elle, mais surtout qu'elle n'est pas apprivoisée. Et apprivoiser ses peurs, c'est pas se dire « bon voilà, j'ai compris, je maîtrise, donc je n'ai plus peur ». C'est pas les dominer, c'est vivre avec elles. Et comment vivre avec ses peurs? Sinon, au contraire, vivre avec les autres, vivre ensemble. Parce que si nous sommes ainsi nucléisés, rendus à notre espèce de monadisme là, mais effectivement, où nous prenons soin de nous, mais qui prendra soin de nous? Nous qui prenons soin de nous? On n'est pas tout seul là-dedans. Je veux dire, le soin, c'est un autre qui nous l'apporte, en pensée ou en acte. La pensée, on se confronte avec soi-même, mais parce qu'on parle aux autres. Je veux dire, un bébé, s'il n'a pas de contact, il meurt au bout de 2 semaines, un bébé humain.
Oui.
Donc c'est une question fondamentale. On le voit avec nos personnes du 3e et du 4e âge. On le voit avec des nourrissons et a fortiori avec nous-mêmes. Tous ces murs qu'on met là, en nous-mêmes, sont autant de manières de nous dire « Non, je suis un héros, j'ai pas peur. Moi, je surmonte. Moi, j'assume. » C'est le maître mot, ça. J'assume, je domine, je maîtrise. Mais tu sais ce que tu maîtrises, toi? Tu maîtrises rien du tout. T'es là, on est tous des pauvres types. Et tant qu'on l'aura pas compris, ben moi je pense que c'est là que la dérive est possible.
Oui. Autrement dit, ce que tu dis, c'est que outre le rapport à autrui absolument nécessaire dans le développement de la pensée, dans le développement de soi, mais au sens simple du terme, hein, tu rappelais l'agora, bon, qui était quand même un marché, hein, là où on faisait ce marché, là où on discutait politique, là où on rencontrait les autres. Enfin, c'est quelque chose de très simple. L'abord avec l'autre et la parole avec l'autre, elle se fait dans des lieux très simples. Mais c'est aussi ce que tu nous dis, c'est faire du courage finalement une action qui prend acte de ses peurs, mais qui va les extérioriser pour en faire quelque chose de peut-être beaucoup plus d'actif, oui, et non pas oui. de passif.
Moi je pense que tu vois, apprivoiser sa peur, ce n'est pas la dominer. C'est au contraire la transformer, oui. Ou se laisser transformer par l'épreuve du monde et des autres dans nos peurs aussi.
Oui.
Et je pense à ce verset 17 du chapitre 20 de l'évangile de Jean, quand le matin de Pâques, Marie-Madeleine va au tombeau et cherche le Christ parce que le tombeau est vide. Mm. Et donc, elle voit un jardinier, là, elle lui dit « Ah ben, si c'est toi qui as pris le corps, ben, donne-le-moi quand même, là. Je veux quand même avoir quelqu'un à veiller. » Et c'est en fait le Christ qui lui dit « Mais ne me touche pas. » C'est très intéressant, parce que notre rapport à l'autre, il est complètement pris dans une idée de l'accaparement. L'autre, c'est devenu un objet de consommation aujourd'hui.
Tout à fait, oui.
L'autre, c'est devenu...
Comme une chose.
Voilà, c'est devenu une chose, c'est devenu ma chose.
Absolument.
Mais ça, c'est pas le rapport à l'autre, c'est pas ce dont je parle.
Non, absolument.
Et donc, au fond, le rapport à l'autre, il n'est possible que dans le souci d'autrui, mais dans le détachement. Donc là, on retrouve toujours ce paradoxe, cette ambiguïté.
Oui, c'est-à-dire, tu parles de détachement parce qu'il ne s'agit pas d'annihiler l'autre. C'est toute la difficulté. Oui. C'est un petit peu ce qui est au cœur aussi de tous les ethnocentrismes, de toutes les politiques.
Oui.
C'est vraiment l'annihilation de l'autre que je mets à ma propre image et que je fais entrer en moi-même.
Exactement.
Alors c'est ça, comment avoir un rapport à l'autre en gardant sa différence en tant qu'autre,
voilà.
Et en même temps en étant complètement ouvert vers lui. Alors ça, c'est la chose la plus...
Oui, mais c'est qui y arrive parfaitement ? Personne.
Ouais, personne.
On n'est jamais
en tout
dans
cas,
cette perfection ou cette totalité, tu me diras.
Oui, oui.
Mais en même temps, le fait d'en avoir conscience et d'être en chemin, c'est ce qui compte. Si Montaigne dit qu'on appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage en dénonçant les visions anthropocentrées et ethnocentrées de son temps, on peut se dire aujourd'hui, voilà, cette altérité d'autrui, comme de moi-même, comment aller à sa rencontre ? Si chaque jour, on se pose cette question et qu'on fait l'effort d'essayer de vivre ça, c'est déjà énorme, je trouve. Qui peut savoir si un jour il l'accomplira parfaitement ? Mais personne. Puis de toute façon, on n'est pas des dieux, quoi. Mais on a le devoir, en tant qu'homme, de s'éveiller, de se réveiller, de plus roupiller comme on fait, quoi.
Ouais, ouais.
Je veux dire, c'est hallucinant, on est en train de bricoler, là. On bricole dans une société où tout part à volo et on prend les mauvaises décisions parce qu'on n'arrive pas à cibler le problème. C'est-à-dire qu'on est dans la périphérie des problèmes et on n'est pas au cœur du problème. Donc ça ne se résoudra jamais, ça. C'est comme si on essaie de démêler des nœuds dans un sac de nœuds et au lieu d'avoir le nœud central, on a tous les petits nœuds autour. Mais moi, ce que je voudrais vous dire aux auditeurs aujourd'hui, c'est que dans cette épreuve de la peur, il y a une épreuve de soi qui passe par la dimension de sa fragilité. Avoir le courage d'avoir peur, qu'est-ce que c'est sinon d'avoir le courage de sa fragilité humaine ?
Oui.
C'est pas une tare d'être fragile. C'est au contraire ce qui pourra peut-être nous sauver de l'idolâtrie de la technologie. Parce que les machines qui peut-être nous remplaceront demain dans beaucoup de métiers, elles ne pourront jamais être des hommes. Parce que cette fragilité-là, qui fait peut-être de nous des mortels, c'est ce qui, paradoxalement, nous donne notre dignité. Notre dignité d'homme, c'est d'être mortel, parce que nous savons que nous le sommes. Quand l'univers m'écraserait comme un poing, par la pensée, moi je le comprends, l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers n'a pas conscience qu'il meurt. Et cette réalité, elle est absolument centrale. Je voulais y venir, justement. C'est la réalité de ce que j'appellerais la mortalité de l'homme. En fait, tout ce qui alimente cette catastrophe du Covid, c'est que tout à coup, l'homme aurait pris conscience comme ça qu'il est mortel.
Qu'il est redevenu mortel.
Mais alors qu'on est tous en sursis ici.
Un certain type d'homme.
Qui ne va pas mourir. Qui ne va pas mourir, là.
Oui, oui.
Et quand le transhumanisme nous promet la mortalité, hein, je ne dis pas l'immortalité pour le moment, mais la mortalité, ça touche 0,01% des gens de la planète. Hein, parce que c'est que pour les ultra-riches, ça.
Bien sûr.
Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut une vie intense et vraie ? Ou est-ce qu'on veut vivoter endormi dans le sofa des préjugés ou dans le molle oreiller des opinions en essayant de vivre jusqu'à 90 ans, mais en vue de quoi ? Pourquoi ?
Oui.
À quoi ça rime cette vie ? Quel est le sel de l'existence quand tout devient chimique ou prêt à penser ?
Oui, alors ça me fait penser, mais de manière comme ça un peu déviée de ce que tu dis, mais quand on parlait tout à l'heure d'essayer de distinguer un petit peu la peur, l'angoisse et la crainte par rapport à l'angoisse, je repense à Jean-Paul Sartre et à cette finalement angoisse dans la nausée, telle qu'elle est marquée dans la nausée, de cette angoisse de recevoir la vie, d'avoir l'impression qu'elle est complètement en nous. Bon, et ça donne quelque chose de très beau à la fin du roman de Jean-Paul Sartre, c'est que vraiment Roquentin retrouve finalement après s'être laissé complètement écrasé par cette angoisse, hein, cette nausée, une angoisse existentielle de cette vie qui est déjà cette extériorité qu'il vit complètement, qui n'est absolument pas détachée de lui-même. Il la sent, cette vie pleine. Et la fin du roman, c'est quand même un espoir à partir de l'art et de l'écriture qu'il mène aussi, de se réengager dans le monde. Et je crois que là, il est toujours bon de relire Sartre, parce que la vie, c'est pas un donné. La vie, oui. il faut la faire, il faut se réengager dedans. Et là, je crois qu'aujourd'hui, on assiste à des politiques qui ne veulent surtout pas qu'on se réengage. Je parle pas forcément d'ailleurs d'un réengagement à la Sartre, c'est-à-dire vraiment de type extrême gauche ou gauchiste. C'est pas la question. Je crois qu'il peut y avoir aussi un engagement dans la philosophie stoïcienne, par exemple, comme tu parlais tout à l'heure d'un réengagement de soi par soi. Hein, c'est aussi ça la forme du courage. Et je crois que c'est ça, je crois que cette angoisse de l'existence qui nous étreigne, je crois qu'elle est là, mais on ne nous invite pas, il ne faut surtout pas compter sur nos politiques pour nous inviter à faire.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que Sartre est un auteur tout à fait important pour cette question de la peur. Et tu citais la nausée, Nathalie. Moi, j'ai envie aussi de parler de cette nouvelle dans le recueil de nouvelles de Sartre, Le Mur, la nouvelle qui s'intitule Le Mur, où précisément ce condamné à mort, qui va bientôt mourir, qui est quasi dans le couloir de la mort, est confronté à sa propre mort de manière imminente, donc il a peur, qui n'a pas peur de mourir, quoi.
Ouais.
Je veux dire, personne ne peut le dire raisonnablement. Donc c'est cette épreuve-là qui le rend vivant.
Ouais.
Voilà. Est-ce que ça vaut la peine de vivre 95 ans comme un mort-vivant ? Ou est-ce qu'il vaudrait mieux pas me vivre un instant comme un vrai vivant ? On peut passer la musique, peut-être ?
Oui, on va peut-être passer le morceau de musique. Voilà. Merci beaucoup aux techniciens de Radio Aligre qui sont là pour nous aider.
Oui.
Merci.
Merci à Julie et à Kevin pour ce moment musical, qui sont là, qui nous accompagnent fidèlement.
Kevin Lecoq et puis Julie Pétrin, c'est ça, j'ai bien prononcé. Ouais, super, ils sont là avec nous, heureusement, parce que alors moi, la technique, ce n'est pas mon truc. Ils sont là pour nous mettre des petites musiques, pour nous faire signe. Ouais. Et puis, ils ont l'air d'être pas mal avec nous, hein, ça va. On est bien ensemble tous les quatre. Hein,
deux jeunes très dynamiques qui sont là. Super performants.
Voilà, et qui sont stagiaires, pour Radio Aligre.
Stagiaires. Hein. Et plein de belles énergies et plein de joie de vivre.
Ouais.
Alors justement, par rapport à cette joie de vivre, je crois que cheminer dans cette humanité commune, ça ne veut pas dire nécessairement fusionner avec l'autre, mais être ce singulier soi-même avec les autres, pas sans les autres, ni contre eux, mais dans l'expérience d'un... d'un vivre ensemble. Alors c'est un peu une expression convenue, vivre ensemble, mais moi je dirais que c'est l'expérience qui déjà peut se faire dans une classe. Nous qui enseignons, Nathalie, on le voit bien.
Ouais.
On a, bon, moi j'ai 40 jeunes dans mes classes, hein, en terminale, j'en ai environ 100 dans les amphis, et bon, aujourd'hui on les voit de manière coupée, puisqu'on a un demi-groupe une semaine, un autre demi-groupe après, mais en fait on est toujours pris là dans ce que peut signifier l'enseignement aujourd'hui dans son fond. C'est un enseignement où finalement ce qui passe, c'est pas tant des connaissances, parce que maintenant les jeunes y ont accès avec Internet en un clic, c'est la manière de donner ces connaissances en étant engagé soi-même dans la vie de ce qu'on enseigne. Mmh. C'est-à-dire qu'au fond, si un enseignant il rabâche, si un enseignant il est là qui fait son cours et qui se casse, si un enseignant il est juste, en train de pointer en déblatérant un cours tout bien préparé, mais qui n'est pas pris, investi, engagé par sa personne, mais il ne parlera pas, il ne parlera jamais.
Absolument.
Au fond, la question de la peur, c'est la question de pas se risquer. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on perd là-dedans? De toute façon, on va mourir. Tu vois, donc cette question de la protection, de la sécurité, elle devient quelque chose qui se retourne contre nous. Parce qu'en se protégeant de tout, on ne sait plus de quoi on se protège. Et au fond, on ne vit plus. Mmh. Au sens où la vie, tu reprenais ça, tu récitais Sartre, c'est un engagement et on perd dans l'engagement. Quand on donne, on perd. Mmh. Mais qu'a-t-on qu'on ait reçu ? Donc ce qu'on perd, en fait, c'est pas à nous, c'est pas de nous, c'est une semence.
Mm.
Et moi, j'aime bien l'idée de la semence, c'est-à-dire cette métaphore qui fait que ce qu'on reçoit, on le sème, et on ne sait pas comment il se transformera, ça ne nous appartient pas.
Et on n'en attend rien.
Exactement.
On est vraiment dans la question du don. Hein.
Et c'est ça l'enseignement, c'est le plus beau métier du monde, je trouve, parce que s'il est pris dans l'engagement d'un don, il est, au fond, l'avenir d'une société qui peut se reconstruire à travers des émergents, c'est-à-dire au fond à travers quelque chose qui fait passer des forces qui ne sont plus isolées, mais des forces du pari de l'abandon, des forces du pari de la confiance, et finalement des forces audacieuses qui donnent à ce monde agité dans lequel nous vivons une possible voie d'ouverture vers un avenir où nous allons repenser nos sociétés, finalement.
Oui, parce que, en tout cas, je crois que tu vis la même chose que moi, mais quand on fait cours, c'est véritablement un échange. Il ne s'agit pas là, on ne pense pas, il faut peut-être le préciser aux auditeurs, un prof qui se pense comme un maître, hein, comme s'il faisait un cours magistral, c'est exactement ce que tu décrivais à l'instant, c'est que on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans l'échange, on n'est pas dans l'enseignement, on n'est pas dans la formation, mais parce que nous-mêmes, nous nous déformons en parlant, et en parlant avec eux, on est reformé et restructuré, refait d'une autre manière. C'est ça l'échange. C'est-à-dire vraiment, c'est pas parce que c'est un élève qu'il ne va rien m'apporter. C'est pas moi qui diffuse tout, c'est à partir de lui et de moi, qu'est-ce qui vient choquer d'ailleurs, hein. Ça peut être le choc au sens de peut-être de l'affrontement des idées et peut-être de l'affrontement verbal un peu fort, pour pourquoi pas. On n'est pas dans le consensus, c'est aussi ça que tu pointais tout à l'heure, c'est que ce que tu envisages comme commun n'est pas du consensuel, mais c'est vraiment quelque chose de l'ordre du partage, même quand ce partage peut ne pas se rencontrer. Mais, enfin, bah oui. Mais en tout cas, la parole, elle est pour rien. La parole, elle est la parole de l'enseignant, elle est pour rien, elle est pour l'échange des connaissances et peut-être pour... en savoir un petit peu plus sur soi-même, peut-être aussi, pas mal.
Moi, vraiment, c'est important ce que tu soulignes, Nathalie, parce que cette idée de consensus, c'est une manière d'irénisme qui serait là pour planir la situation, contourner le débat, éviter le conflit.
C'est ce qui se passe.
Voilà. Mais si débat il n'y a pas nécessairement polémique. Le débat, c'est une heuristique, ce n'est pas une héristique.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'au fond, c'est une recherche commune. Et se laisser déporter, déplacer par autrui, c'est précisément pouvoir avancer sur le chemin avec les autres. Ça ne veut pas dire dans un compagnonnage cucu. Ça veut dire au contraire que par-delà les différences d'idées, les différences de vie et d'horizon, on a une force en nous qui est une force de vie de l'esprit. Et cette vie de l'esprit, quand on la retrouve avec les autres, quand les autres nous regardent au sens d'un regard partagé, et que nous les regardons, on pourrait alors découvrir tout le processus de la résilience dont parle Boris Cyrulnik dans Un merveilleux malheur. Il dit comment on arrive à se sortir de situations comme ça, où on a tout perdu, où on a été un enfant battu, où on pense des imaginaires biologiques, commerçant de père en fils, voleur de père en fils. Qu'est-ce qui nous permet de sortir comme ça des glues de nos peurs? Quand la peur devient une glue, elle est une peur effectivement délétère ou toxique. Mais dès lors que la peur est vue en face et qu'on se dit « je ne me limite pas à elle, mais je vais transformer cette peur et faire qu'en moi, il y a un courage » qui, dans l'énergie de cette peur, va renverser la peur et la transformer en autre chose. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que quand, dans Un merveilleux malheur, il parle de la résilience comme d'un tricot, il dit bien qu'il s'agit là, au fond, de quelque chose qui est de l'ordre d'un maillage, beaucoup plus que d'une substance. Moi, je pense que l'homme ne se définit pas comme un en-soi ou une substance, pour rejoindre Sartre, là, mais comme un maillage.
Absolument.
C'est-à-dire, au fond, quelque chose qui entrelace des fils divers, des fils différents. Et c'est une façon de dire que l'homme, s'engageant dans un cours, dans un métier, dans une vie sociale ou dans un parti politique, il est un homme tricotant avec ses rencontres dans des milieux affectifs et sociaux, des manières de se rapporter au monde, au temps et à l'espace, de telle sorte que ces manières puissent déterminer, au fond, un avenir fécond et paisible, au sens, non pas, comme tu le disais, d'un consensus, mais au sens d'une construction culturelle.
Ouais.
La culture, c'est pas une accumulation de connaissances, comme un ordinateur ou un programme, mais c'est au contraire le plus bel usage que nous puissions faire de notre humaine condition, de notre fragilité d'homme, un usage qui pourrait faire dire à Montaigne « je suis à moi-même mon propre chef-d'œuvre, mais je ne le suis pas clos sur moi-même, mais je suis à moi-même mon propre chef-d'œuvre dans la mesure où précisément la vie est cet exercice, cet essai qui est avec l'autre, le lecteur, l'auditeur, l'élève, l'auditeur de la radio, les amis, les passants, les commerçants, les rencontres.
Oui.
Voilà.
Un véritable humaniste, Montaigne, dans le très beau sens du terme, d'une humanité plurielle.
C'est
quand même le premier à l'avoir vu.
Un grand philosophe.
Un grand philosophe, et je crois qu'il faut lire, très agréable à lire en plus, une écriture magnifique. Bon, ma chère Isabelle, on va... petit à petit clore cette émission sur une petite conclusion. On a encore un petit peu de temps avant de faire quelques annonces. Alors, que voulais-tu, toi, annoncer? Moi, j'ai quelque chose à annoncer de la part de l'association Le Paria. Je crois que nos auditeurs s'en souviennent. L'année dernière, il y avait Moha et Laurent Bazin qui étaient venus nous parler du Paria. Cette association, c'est complètement... en adéquation avec ce dont on vient de parler, traverser la peur, le Paria, c'est une association qui essaie justement de traquer la peur et la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Et Dieu sait que l'étranger, en ce moment, il est très, très, très maltraité. Alors, je voulais faire une annonce aux auditeurs pour le 16 octobre en soirée à la Flèche d'Or, le 102 rue de Bagnolet dans le 20e, va se tenir quelque chose par le Paria. Donc le Paria va organiser une table ronde, veuillez m'excuser, je lis sur mon téléphone portable, voilà, parce que j'ai reçu l'annonce juste avant l'émission. Donc le Paria organise une table ronde avec Mathieu Rigou, Stelza Dorlin, Farid El Yamni, et c'est animé par Aurélia Michel sur le thème « Se défendre ». Se défendre, s'émanciper. Alors j'invite les auditeurs là, qui nous écoutent à faire l'adresse suivante, https://leparia.fr. / table ronde, se défendre, s'émanciper. Voilà, vous verrez qu'il va y avoir un menu, hein, ça commence à 18h, il y a un menu, c'est une soirée, on se rencontre avec des masques partout, bien entendu, et puis on va tout éteindre à 22h, mais 18-22, c'est déjà mieux que rien. Voilà. Tout ça pour la défense de l'étranger et de la différence dans ce pays. Voilà, de la part de Laurent Bazin et Moha, qui sont les cofondateurs du Paria. Voilà.
Alors, ça me permet de faire un coucou à Laurent et à Moha.
Ouais, j'espère qu'on les recevra bientôt.
En espérant qu'ils vont bien.
Oui,
et puis, l'annonce que j'ai à faire, c'est la revue, le numéro que tu vas sortir au Collège international de philosophie.
Oui, qui est déjà sorti, qui est déjà sorti sur l'enseignement, c'est ça ? Voilà, rue des cartes,
sur l'enseignement. Rue des cartes sur l'enseignement.
Voilà.
Et autre annonce, les prochaines émissions seront consacrées à des livres que nous avons reçus et lus, Nathalie.
Oui, absolument.
Et dont nous vous parlerons.
Oui, avec grand plaisir. Et puis on va inviter souvent les auteurs de ces ouvrages, à dialoguer avec nous. Alors des ouvrages parfois un petit peu philosophiques, on va essayer de faire
Oui.
Et puis d'autres ouvrages beaucoup plus beaucoup plus transversaux, comme c'est l'habitude dans notre émission.
Et puis peut-être proposer à nos auditeurs un autre cycle cinématographique.
Oui, avec plaisir.
Cette année, j'aimerais beaucoup leur parler de Bergman.
Oui.
On va proposer ça en cours d'année. Nous sommes un peu dans les incertitudes du lendemain avec toutes ces questions sanitaires que vous connaissez. Mais gardons confiance et nous pouvons espérer demain être toujours présentes à Philosophie au présent.
Voilà, c'était magnifique. Moi, j'aimerais bien faire des émissions sur Julien Duvivier.
Oui.
Parler du cinéma de Duvivier, c'est quelqu'un que, et ça vaut le coup, vraiment, Duvivier.
Vraiment.
Bon, on en reparlera.
On en reparlera. Voilà. À bientôt, chers auditeurs.
Merci beaucoup.
Et merci encore à
Julie et à Kevin.
Voilà,
qui nous ont suivis et qui vont maintenant lancer le générique. Pour une fois, on est à l'heure. C'est magnifique.
Ouais, c'est pas souvent.
Merci, chers auditeurs.
Merci.
À très bientôt.
Merci.